Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jabodima.
Qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Donc ce soir, on va voir cette question, où passerez-vous l'éternité ? C'est tout simplement la seule question essentielle. Donc on va parler de l'essentiel ce soir. Et l'essentiel, si vous êtes à Christ, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, peut-être vous pensez que c'est une chose acquise. Eh bien, j'aimerais qu'on le voit ce soir dans cette perspective de pouvoir parler à quelqu'un de ce que c'est la vie et la mort et d'avoir en nous-mêmes cette assurance de pouvoir répondre à quiconque nous demande raison. Si quelqu'un nous dit « Pourquoi tu crois ça ? Quelle est cette assurance que tu as ?» Eh bien, il y a une chose que nous devons placer au départ, c'est que nous avons un livre qui n'est pas n'importe quel livre, c'est la Bible, qui fait autorité. Si quelqu'un dit « Je n'y crois pas », je ne peux pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider et Dieu ne peut pas l'aider. En fait, personne ne peut rien pour lui. Il a décidé d'y pas y croire et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on le laisse tomber. Mais à un moment donné, il faudra qu'il choisisse d'y croire, comme nous avons dit. Puisque tout ce que nous allons dire ensemble ce soir sera basé sur ce livre. On ne va pas chercher nos arguments et nos raisonnements ailleurs. On va regarder toujours ce que dit la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui m'encourage beaucoup, c'est que dans les évangiles, nous voyons Jésus faire souvent référence à l'Ancien Testament. Et lui n'a jamais mis en doute aucune des paroles qui ont été écrites avant lui. Il n'a pas dit, vous savez, l'Ancien Testament, c'était à peu près, mais maintenant, moi, je viens avec la pleine révélation. Non, au contraire, il a souligné l'autorité de toutes les Écritures. Et l'apôtre Paul ne faisait rien d'autre que ce que nous faisons souvent dans cette Église et les gens qui viennent nous enseigner font, c'est-à-dire ils puisent constamment dans tous les écrits qu'il y a. Et nous voyons aussi, si vous, un jour vous avez l'occasion, je vous conseille de relire par exemple l'épître de Paul aux Romains. C'est une épître qui parle beaucoup du salut, qui place, on pourrait dire, la doctrine du salut, qui est essentielle pour nous. Et là, constamment, il fait référence à l'Ancien Testament. Constamment. Donc vous voyez, ce n'est pas une chose, maintenant c'est terminé avec l'Ancien, on passe au Nouveau. Non, tout est cohérent et tout est parole de Dieu. Et pour nous, alors on va étudier l'essentiel, non pas en se basant sur toutes sortes de suppositions ou de théories. Quelqu'un a donné une définition une fois de la théorie, il a dit, une théorie, c'est une supposition basée sur l'ignorance. On ne sait pas, donc on suppose quelque chose, on imagine. Voyez, donc pour nous, nous savons qu'il existe dans le monde beaucoup de toutes sortes de théories. Je ne dis pas que les théories sont toujours négatives, parce que quand on ne sait pas, on commence par supposer quelque chose, ensuite on peut l'étudier et finalement découvrir quelque chose. Ainsi, j'ai entendu parler aussi de la façon dont Einstein avait découvert ce qu'ils appellent la théorie de la relativité, hein. Au début, c'était une théorie. Et il se demandait comment ça marchait, la gravité et toutes ces lois physiques. Et vous savez comment il a fait ? Il, à un moment donné, il s'est dit, si j'avais été à la place de Dieu, comment est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas s'il était plus ou moins croyant, il y a des gens qui le considéraient comme athée, peu importe, mais l'idée simplement, il s'est dit, comment si j'avais été à la place de Dieu, est-ce que j'aurais fait ? C'est ça qui lui a fait découvrir E égale MC2. L'énergie qui est égale à la lumière fois la vitesse. Et c'est sur ça qu'on se base pour aller sur la Lune et en revenir maintenant. Vous voyez ? Donc, on n'en a pas besoin toujours dans le quotidien, je suis d'accord avec vous, mais c'était juste une illustration pour vous montrer qu'il y a des choses que Dieu peut nous révéler Certains partent de toutes sortes de suppositions. Les suppositions peuvent les amener quelque part. Mais des fois, il y en a aussi qui font des suppositions et ça ne les mène nulle part et ça n'est basé sur rien du tout. Alors, on va mettre les choses bien au clair pour le démarrage. On va dire que pour l'essentiel de notre vie, pour être sûr où nous allons passer l'éternité et pour être sûr de savoir comment parler aux gens, eh bien, nous allons uniquement citer la parole de Dieu. Uniquement. Alors, où passerez-vous l'éternité ou qu'est-ce que vous y ferez? C'est des questions qui viendront encore après, mais on pourrait devenir plus précis en disant que se passe-t-il immédiatement à la mort, après la mort. Alors, certains ont répondu à une question très simple, ils ont dit rien. Certains ont dit il n'y aura rien, et beaucoup de gens autour de nous croient qu'il n'y a rien. Eh bien, ça, c'est pas nouveau, hein. Et Jésus avait affaire à eux, alors on va voir comment il s'en est sorti. Dans Marc 12, chapitre 12, versets 18 à 27. Quelqu'un sait déjà comment ils s'appelaient ces gens-là? Qui croyaient qu'il n'y avait rien? Oui, c'est les Sadducéens. Oui? C'était des gens qui étaient juifs, faisant partie du peuple d'Israël, qui étaient extrêmement religieux, et pourtant ils croyaient qu'il n'y avait rien. C'est étonnant, hein? C'était pas des gens qui étaient contre la religion. Ils croyaient que même, ils parlaient de Dieu, ils discouraient sur la religion, mais ils croyaient qu'il n'y avait rien. Bon, chez nous, en général, ce ne sont pas les gens qui sont religieux qui disent qu'il n'y a rien. C'est plutôt ceux qui veulent fuir toute notion de que ma vie pourrait être jugée ou qu'il puisse y avoir quoi que ce soit qui m'empêche de faire ce que je veux. Et c'est un petit peu ça, plutôt, qui les motive. Mais là, donc, nous avons au verset 18, les Sadducéens qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Vous voyez, la résurrection montre qu'il y a quelque chose après la mort. S'il n'y avait pas la résurrection, eh bien tout s'arrêterait et puis ça serait terminé. Mais la résurrection est déjà en soi, le fait de croire à la résurrection fait de nous des gens spéciaux. Et de croire à la résurrection de Jésus fait de nous des gens qui vont allons expérimenter nous-mêmes une résurrection. Ils vinrent auprès de Jésus lui poser cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. » Alors ils viennent avec une astuce. « Si le frère de quelqu'un meurt, laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve, suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria, mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, mourut sans laisser de postérité. Il en fut du même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme ?» Donc en fait, ça c'est le schéma habituel. Je pense que ça va vous aider aussi à avoir un discernement plus affûté quand vous discutez avec quelqu'un pour recevoir de la part de Dieu la sagesse pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière les phrases et les propos qui vous sont adressés. Parce qu'il y a ce qu'on vous dit, mais il y a aussi des fois ce qui est derrière. Plus il y a les paroles qui ont leur importance, mais aussi l'esprit qu'il y a derrière. Comme ceux qui sont venus en disant « Maître, nous savons que tu es vrai, tu dis toujours la vérité, etc. » en cherchant à le piéger. Il est dit dans la parole de Dieu, voyant leur hypocrisie, il dit. Donc, il est important de voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire ici. Donc, ce qui les intéressait n'était pas du tout qu'est-ce qu'allait devenir cette femme ou son mari. Ils voulaient simplement le piéger et lui montrer par la parole de Dieu que ce n'est pas possible qu'il y ait une résurrection. Ils voulaient eux-mêmes utiliser la Bible pour prouver que la résurrection ne pouvait pas avoir lieu. Et donc, ils voulaient prouver que la Bible était incohérente, parce qu'il ne peut pas y avoir à la fois, d'après leur raisonnement, une résurrection et qu'une femme soit mariée à 7 hommes différents, et alors que va-t-il se passer dans l'au-delà? Vous voyez? C'était pour eux la preuve que la Bible était incohérente. Et donc, ce qu'ils attaquent, en fait, c'est quoi? C'est l'intégrité, l'autorité de la parole de Dieu. En disant, on ne peut pas s'y confier. Vous voyez qu'il y a des choses dans la Bible qui sont bizarres, et on ne peut pas vraiment s'y confier. Et donc, on revient à Genèse 3, quand le diable, ou Genèse 2, quand le diable avait dit, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et on arrivera toujours à cette question. Que vous ayez un problème, n'importe lequel, la question sera toujours « Dieu a-t-il réellement dit ?» ou « N'a-t-il pas dit ?» ou « A-t-il dit ça, mais qu'en fait, il voulait dire encore autre chose ?» et toutes sortes de raisons. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est maintenant non pas leur piège, mais c'est la réponse de Jésus. Autant dans la Bible, nous avons des fois des choses que les hommes ont dit, que les hommes ont pensé, même des fois que les démons ont dit, et nous savons qu'ils sont menteurs, et que les hommes aussi sont menteurs, mais il y en a un qui est la vérité, c'est Jésus. Verset 24, il leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et quand il dit « ni l'un ni l'autre », ça veut dire que les deux sont intimement liés. Ceux qui sont dans l'erreur, c'est toujours qu'ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, ou l'un ou l'autre qu'ils ne comprennent pas. Donc, trois possibilités d'erreur. Soit on ne comprend pas les Écritures, soit on ne comprend pas la puissance de Dieu, soit on ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et je pense que quand on ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, on est, qu'est-ce que dit Jésus ? Verset 27, vous êtes grandement dans l'erreur. Ça, c'est quelqu'un qui fait une grosse erreur, ce qui ne comprend pas les deux. Mais il y en a beaucoup qui comprennent une partie, un peu d'Écriture, un peu de ce que Dieu fait, mais on peut quand même être dans l'erreur. Mais Jésus, ici, il démontre la résurrection. Et pour nous, c'est étonnant de voir comment il démontre la résurrection des morts. Il dit « À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ?» Vous voyez, on y arrive à Moïse. Il se réfère à Moïse. Il dit « Ce que Dieu a dit à propos du buisson, dans le buisson ardent, quand Dieu s'est révélé. » Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Trois personnes qui étaient mortes. Elles étaient mortes au moment où il parle à Moïse. Mais Dieu dit, il ne dit pas, j'étais le Dieu de Abraham lorsqu'il vivait. Mais maintenant il est mort. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Voyez ? Il dit, je suis au présent. Et il dit, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En même temps. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ça veut dire que pour Jésus, ça, c'était la réponse finale. Avec ça, ça suffisait largement. Il avait donné une réponse de la parole de Dieu. Et maintenant, on pourrait se dire, devant tellement de sagesse, ils étaient tous saisis, les Sadducéens, et tous se sont convertis et ont cru à la résurrection. Eh bien non, parce que dans les Actes des Apôtres, des dizaines d'années après, les Sadducéens tenaient toujours bon. Et leur doctrine, ils s'y accrochaient solidement. Si vous voulez voir où c'était, c'est dans Actes 20... Pardon ? Quelqu'un a le chapitre ? Oui, 23:8. Merci. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Ce livre a été écrit, les Actes des Apôtres, plusieurs décennies après cette histoire de Jésus. Et ils étaient toujours là, les Sadducéens. Et maintenant, des siècles après, eh bien, ils sont toujours là. Mais ils ne portent pas le même nom, mais il y en a toujours qui croient ça. Et les Sadducéens, ils disaient qu'il n'y a point de résurrection. Et en plus, on précise quelque chose concernant leur croyance. Ils disent qu'il n'existe ni ange, ni esprit. Mais les pharisiens affirment ces deux choses. Ils croyaient à ces deux choses. Ils croyaient qu'il y avait la résurrection et il y avait aussi des anges et des esprits. Eh oui, les Sadducéens, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Pourtant, là, on peut dire que c'était la parole de Dieu. C'était Jésus lui-même. Parole vivante, parole incarnée. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui leur avait mal présenté l'évangile ou qui n'était pas en forme ce jour-là. L'onction de Dieu n'était pas sur lui. Mais ils n'ont pas reçu. Donc voilà pour ceux qui disent qu'il n'y a rien. Et pour nous, rien que le fait de croire à la vie éternelle, et vous pouvez trouver des centaines de passages de la Bible, tout ce qui nous parle de la vie éternelle est la preuve qu'il n'y a pas rien, mais qu'il y a quelque chose. Rien que le classique Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien ça, c'est une preuve de la vie éternelle. C'est une preuve de la résurrection. Vous voyez donc, des preuves, si on vous en réclame, vous pouvez en trouver des centaines. Ça ne seront peut-être pas les preuves que les gens auront peut-être souhaitées ou désirées, mais c'est la réponse de Dieu. De la même façon que dans Acte 3, quand le mendiant, il est là, et il demande de l'aumône, Pierre et Jean lui répondent en disant, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Vous voyez ? Donc, souvent, peut-être les gens peuvent être surpris, voire même déçus de nos réponses, parce que nous ne leur donnons pas forcément ce qu'ils veulent, mais nous pouvons leur donner ce dont ils ont besoin. Et nous ne voulons pas toujours raisonner, argumenter, mais nous leur donnons l'essentiel. Voilà, prends-le. Et le paralytique l'a reçu. Il a, à ce moment-là, il a saisi, et c'est par le nom de Jésus qu'il a été guéri. Et de la même façon, eh bien, un homme, une femme peut être guéri, si on peut dire, de sa condition éternelle. En tout cas, il y a quelque chose après la mort aussi, qui nous est, que j'aime bien souligner, celui-là, c'est Hébreux 9, 27. Et je prends le temps ce soir aussi que nous puissions voir dans la parole de Dieu où c'est écrit. Afin que vous deveniez aussi des spécialistes de la parole de Dieu et sachiez, pas toute la Bible par cœur, mais trouvez certains passages clés que vous avez besoin, dont vous avez besoin quand on vous demande quelque chose. Hébreux 9, 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir. Et comme c'est quelque chose de spécial, là, on leur a fait un beau cadeau, il leur est réservé. C'est réservé à personne d'autre. Souvent, c'est pas dans ce sens, c'est que c'est quelque chose de réservé. Ça veut, c'est très précis. Si j'écris réservé sur une chaise, eh bien, c'est une chaise qui est destinée à quelqu'un. Personne d'autre n'a le privilège de s'asseoir dessus. S'il le fait, il usurpe le droit de quelqu'un d'autre. Et Dieu est un Dieu qui est juste, qui veut que chaque chose soit réservée, et il y a des choses qui sont réservées. Ici, il est réservé pour les hommes, eh bien, de mourir, ça ne semble pas très joyeux, mais il dit une seule fois. Et ça, c'est très important pour nous. Après quoi vient le jugement? Ça veut dire après la mort, il y a quelque chose. Donc même si ce n'est pas tellement amusant, la perspective de jugement, au moins on a la réponse à notre premier point, qu'il n'y a pas rien. Au moins il y a le jugement, d'après ce passage. Mais il n'y a pas rien, et c'est très important. Parce que s'il n'y avait rien, si la vie d'un homme ne vaut pas plus que ça, qu'est-ce qui m'empêcherait alors de devenir le plus grand bandit, brigand, tuer tout le monde? Il n'y a plus aucune limitation, il n'y a plus aucune perspective de jugement. Tant qu'on ne m'attrape pas ou que j'ai le dessus, la terre deviendrait vraiment déjà l'enfer avant le temps. Mais il y a encore un Dieu qui agit et il y a encore quelque chose. Et ce quelque chose, c'est nous tous, l'Église, qui retenons le mal et qui sommes constamment là pour dire qu'il y a un Dieu juste. Et pour annoncer un jugement, ce qui fait quand même qu'il y a une certaine réserve pour certaines personnes. Il y a une conscience au départ, cette conscience peut être étouffée, mais le fait de s'entendre dire des choses, qu'il ne faudrait pas faire ceci ou pas cela, qu'il y a un Dieu qui juge, eh bien ça fait une retenue. Mais plus important que ça, parce que sinon on pourrait nous accuser de n'être que des gens qui veulent établir un ordre moral, mais plus important que ça, c'est que la destinée éternelle de chacun est ici en jeu. Parce que s'il y a un jugement, il va y avoir une décision. Et comment faire pour que le jugement nous soit favorable? Je ne sais pas si on va en parler ce soir, mais en tout cas, nous avons vu ce soir qu'il n'y a pas rien et il y a un jugement. Et alors, je vais vous lire maintenant toute une série de choses où nous pourrions nous trouver, théoriquement, d'après la Bible. Peut-être vous en avez encore d'autres, mais voilà toutes sortes d'expressions, soit de la Bible, soit d'ailleurs. Donc, nous pourrions être dans, après la mort, dans le sein d'Abraham, au paradis, au septième ciel, au troisième ciel, au ciel tout court, au purgatoire, réincarné, dans le séjour des morts, en enfer, dans l'abîme et dans l'étang de feu et de soufre. Donc voilà tous les endroits que j'ai recensés où quelqu'un, un homme ou une femme pourrait se trouver. Donc j'ai dit soit d'après la Bible, soit d'après les pensées des hommes. Mais nous allons voir aussi que certains de ces choses se regroupent et constituent en fait la même réalité. Hein? Mais comme ces expressions sont dans la Bible, il faut quand même que nous ne soyons pas confus, parce que si quelqu'un vous demande, eh bien, que va-t-il se passer après la mort, et que dit, ah, j'ai pas trop, j'espère que je ne serai pas là, mais peut-être je serai ici, et si je me débrouille bien, je serai encore là-bas. Vous savez, ça ne sera pas vraiment un témoignage puissant que Dieu pourra utiliser. J'aimerais juste rapidement en terminer avec le septième ciel, si vous me permettez, parce que le septième ciel est très populaire. Vous le savez, les gens parlent du septième ciel. Et le septième ciel existe, mais seulement dans l'imagination de ceux qui suivent les doctrines de l'Inde. Et donc, c'est des doctrines de réincarnation, c'est lié à la réincarnation. Il y a une idée de progression. N'arrivez pas du premier coup tout de suite au septième ciel, mais vous faites de mieux en mieux. Et puis, contrairement à ce que nous avons vu à l'instant, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, eh bien, ces gens croient que vous pouvez mourir et puis revivre et puis faire mieux que la dernière fois et donc vous améliorer. Si vous n'avez pas la malchance d'être réincarné dans une bête et autre chose, mais je pense juste, le septième ciel, je crois qu'il a aussi le nom de Nirvana, hein, pour les spécialistes des religions orientales, on appelle ça aussi le Nirvana. Il y a un groupe de musique qui a quelques années qui s'est appelé Nirvana, qui a une influence assez grande sur les jeunes, sauf que le chanteur s'est suicidé il y a quelques années et qu'il doit probablement être en enfer à l'heure qu'il est. Mais il faut dire les choses comme elles sont, hein. Il n'est pas au septième ciel maintenant parce que ça n'existe pas. Le diable l'a séduit, l'a trompé. Il l'a utilisé comme un instrument pour séduire des milliers de gens qui ont écouté leur musique. Et puis quand il n'en avait plus besoin, il l'a jeté comme quelque chose dont on n'a plus besoin. Et puis maintenant, il était désespéré, il est mort, suicidé. Donc, il faut que nous fassions attention, surtout que la Bible nous encourage à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que nous pouvons assez facilement, même en tant que chrétiens, intégrer un peu des notions à droite, à gauche, qui sont des expressions ou des pensées populaires. Et nous nous construisons notre propre théologie sur un mélange de Bible et de choses qu'on a grappillées à droite et à gauche. Donc le septième ciel, le Nirvana, tout cela n'existe pas. Et nous allons voir que d'après la Bible, donc on a vu réincarnation, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes vivants sur terre une fois. Si nous mourons, il y a une résurrection, mais il n'y a pas un deuxième passage sur terre. En même temps, on voit là aussi la doctrine les efforts de séduction du diable au travers du cinéma et de toutes sortes de choses. Toutes les histoires de revenants, de morts vivants et compagnie, eh bien, c'est aussi en lien avec, cette fois-ci, non pas une réincarnation, parce que l'esprit ne revient pas dans un corps, mais l'esprit reviendrait sur terre. Or, ça, ce n'est pas prévu par la parole de Dieu. Et nous pouvons lire dans Luc 16, cette histoire de Jésus concernant Lazare et le riche. Vous savez, ce n'est pas n'importe comment que Dieu a constitué la parole de Dieu, mais il y a mis tout ce qu'il nous fallait pour répondre à toutes les questions. « Et le riche dit au verset 27, « Je te prie, Père Abraham. » Il parle là à Abraham parce qu'il n'a pas mis Dieu dans son histoire. Il n'a pas parlé de Dieu le Père dans son histoire, mais c'est comme si Abraham était un peu le gérant de cet endroit. Mais il dit « D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Donc il y a là la demande expresse de quelqu'un qui est mort et qui demande que quelqu'un d'autre d'entre les morts soit renvoyé sur terre en faveur des vivants. Je ne sais pas comment il imaginait qu'il revivrait, résurrection ou autre chose, mais la réponse est très claire ici. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont la parole de Dieu, c'est ça qu'il dit. Il y a assez dedans pour diriger votre vie. Il dit, non, ça ne suffit pas. Il faudrait quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort que la parole de Dieu. Vous voyez l'allusion. Ça ne suffit pas, la Bible. Il faut quelque chose de plus fort. Ben, c'est bien joli, la Bible, mais il faut quelque chose de plus. Non. Quelqu'un des morts qui ressuscite. Là, ça, au moins, ce serait impressionnant. Et alors, il est sûr qu'ils se repentiront. Et Abraham, il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un des morts ressuscité. Et là, il y a un conditionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu que ce soit les morts, ceux qui étaient de l'autre côté, qui évangélisent les vivants. Mais c'est les vivants qui doivent annoncer ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu. Vous savez, on a un moment, il y a eu toutes sortes d'histoires. Il y a eu des films qui ont été faits à propos de témoignages, gens qui ont vu le ciel, d'autres qui ont vu l'enfer. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ces gens étaient de toutes sortes de conditions. Il y en avait qui marchent avec Dieu, d'autres pas. Et vous avez des fois des gens qui ne se souciaient pas du tout de Dieu. Ils ont fait un passage dans l'au-delà, mais quand ils reviennent, ils disent qu'ils ont vu une lumière. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, comme impression, mais moi, je trouve ça incohérent. Incohérent si c'est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il va de l'autre côté, il voit une lumière, il revient? Moi, je crois plutôt que tout cela est destiné à nous embrouiller, à nous jeter dans la confusion, et ça n'a pas apporté des milliers de gens dans le royaume de Dieu. Chacun répond pour lui-même. Je dis simplement que je ne mets pas en doute que cela puisse exister. Je ne mets pas en doute que ça puisse être des témoignages valables. Mais j'ai dit seulement, devant le grand panorama que représentent tous ces témoignages qui sont tellement variés, avec toutes sortes d'états, ça peut être une source de confusion plutôt que d'édification. Et nous avons besoin avant tout de voir que nous sommes des individus uniques aux yeux de Dieu. Nous n'allons pas nous replonger. Nous ne sommes pas des personnages de l'histoire réincarnés. Vous savez, ceux qui racontent des histoires de réincarnation, qui disent qu'ils ont été dans le passé Monsieur X, Y, Z, souvent c'est des personnages célèbres. Ils veulent être quelqu'un d'important. Alors, ils disent pas « j'étais un pauvre paysan du fond de la campagne, j'ai jamais rien expérimenté ». Non, ils ont été des grands hommes d'État ou des gens qui étaient bien en vue. Et je pense là, nous voyons quelle est la séduction, c'est que il y a dans le cœur de cette personne de l'orgueil, désirer être quelqu'un qu'il juge important, et il s'ouvre alors à une action des esprits qui existent, qui lui communique certaines informations qu'il ne pouvait pas avoir dans le naturel, parce que le monde des esprits, il est là, et parce qu'ils ont ces informations, ça impressionne. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas donner foi à tout cela, car nous avons la parole de Dieu qui nous a montré que non seulement il y avait quelque chose après la mort, mais qu'il n'y avait pas de possibilité de réincarnation, et que aussi l'idée de progression pour faire toujours mieux, eh bien ne peut pas être trouvée dans la Bible non plus. Nous avons dans Luc 23, pardon, un des plus beaux passages de la Bible, je trouve. Il nous est dit, Luc 23, 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant sort. Le peuple se tenait là, regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Toujours ceci, qui est la tentation et l'enseigne du doute, eh bien, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour ça que j'ai dit, c'est un des plus beaux passages de la Bible, parce que nous voyons, il y a tout. Il y a tout ce que nous avons besoin de savoir pour savoir où passer l'éternité. Jésus promet à un homme qu'il sera avec lui dans le paradis aujourd'hui même. Moi, je trouve ça vraiment glorieux. Et ce qui est très important pour nous, c'est que Paul parle quelque part de la simplicité de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, est quelque chose de simple. Vous êtes d'accord avec ça? C'est simple. Les hommes y ont rajouté beaucoup de choses. Mais regardez comme c'est simple. Il dit, celui-là n'a pas fait de mal, mais moi, je reçois ce qu'ont mérité mes crimes. Et ensuite, il dit, souviens-toi de moi, il invoque le Seigneur, quand tu seras dans ton règne. Et il a cette foi que Jésus va venir dans le règne. C'est très simple. Et ça, ça suffit pour que Jésus lui réponde, eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça suffit. Il n'a pas le temps de se faire baptiser. Il n'a pas le temps de vivre dans une église et de faire énormément de choses pour servir Dieu. Il n'a pas le temps de faire de bonnes œuvres. Il a rien du tout. Il a juste sa foi, sa confiance dans cette parole de Jésus. Aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. C'est pour ça que je dis, c'est simple, c'est direct et c'est efficace. Parce qu'on peut être sûr que si Jésus lui a dit ça, eh bien ça s'est accompli. Et c'est pas un cas particulier, parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. On ne peut pas dire, bon, pour le brigand de la croix, comme il n'y avait pas d'autre possibilité, Dieu a trouvé une autre méthode pour le sauver, celui-là. Mais pour les autres, comme eux, ils ont le temps, alors voilà la liste de toutes les choses qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ça, c'est la base du salut. Il y a tout ce qu'il faut et ça suffit pour chacun. S'il se reconnaît pécheur devant Dieu, s'il reconnaît que Jésus est le seul vrai juste qui a jamais existé, et s'il l'invoque, eh bien, ça marche. Ça marche dans ce cas-là, et ça marche aussi pour nous. Alors, il sera, où est, quel endroit avons-nous vu ici? Il sera au paradis. D'où on parle du paradis perdu. Le paradis n'est pas perdu. Le jardin d'Éden a été perdu, mais le paradis n'est pas perdu. Dieu sait exactement où il est, et nous allons aussi en trouver le chemin. Et nous n'avons même pas besoin de nous inquiéter comment en trouver le chemin, parce que si nous avions pris le temps de lire dans Luc 16, non, parce que les anges vont nous emporter jusque là-bas. Ils vont nous escorter. Donc on n'a même pas besoin d'avoir peur. Il nous est dit dans Luc 16 que quand le pauvre Lazare était mort, eh bien les anges l'ont transporté jusque dans le sein d'Abraham. Dans 2 Corinthiens 12, cette fois-ci, on va y venir dans un instant. 2 Corinthiens 12 nous parle aussi du paradis. C'est quand Paul a été emmené au ciel. Mais j'aimerais juste encore dire un mot au sujet du purgatoire. Purgatoire, comme son nom l'indique, avec la racine, il y a le mot purger. On parle par exemple de purger une peine, hein, peine de prison qui doit être purgée. Eh bien, cette expression donc a donné le purgatoire. Alors, si on pense que certains doivent purger une peine avant d'accéder au ciel, eh bien, je pense là aussi, le brigand de la croix, lui, aurait dû faire un séjour là-bas. Vous ne pensez pas? Il l'aurait mérité, hein? Mais Mais Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans quelques mois, quand tu auras fini de purger ta peine dans le purgatoire. Donc, je veux dire, rien que ça, pour nous, ça serait une décision, la décision de notre choix quant au purgatoire ou non serait prise à cause de la parole de Jésus. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, qui est une petite recherche historique sur le purgatoire. Alors, je pense que ça va vous intéresser aussi. Il nous est dit qu'aucun des pères et des docteurs de l'Église des premiers siècles n'a cru à l'existence de ce lieu de purification, où l'âme, dit-on, doit passer un temps plus ou moins long avant d'entrer au ciel. Pour eux, comme pour les apôtres et tous les chrétiens primitifs, on appelle les chrétiens primitifs, ceux qui ont vécu en premier, c'est tout ce que ça veut dire, il n'y a qu'un moyen unique de purification, parce que purger une peine ou un endroit de purification, eh bien, c'est un moyen unique par le sacrifice même du Christ qui, par sa mort, ôte le péché du monde et dont le sang nous purifie de tout péché. C'est Jean, chapitre 1, verset 29 et 1 Jean 1, 7. Alors, le purgatoire, il nous est dit, était encore inconnu au 5e siècle. Comme le montrent ces paroles de saint Augustin lui-même, voilà ce qu'il a déclaré. Lorsque l'âme est séparée du corps, elle est à l'instant placée en paradis à cause de ses bonnes œuvres ou précipitée en enfer pour ses péchés. Donc lui, il dit qu'il n'y croyait pas. À cause de ça, nous pouvons détecter, bon, il y avait cette idée de venir au paradis à cause des bonnes œuvres, mais il disait à l'instant. Et ensuite, il dit, il n'existe point de lieu mitoyen, dit-il encore, celui qui n'habite point avec Jésus-Christ ne peut être ailleurs qu'avec le diable. Justin Martyr déclare que les âmes des bons sont dans un lieu agréable. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc ça, c'était à partir du 5e siècle, il y avait cette question du purgatoire qui commençait à surgir déjà. Avant, on n'avait pas de traces. Maintenant, il y a eu plusieurs déclarations. Et ils nous disent, c'est dans l'intervalle qui s'écoula entre l'époque où vivait saint Augustin et la fin du 6e siècle, de 430 à 600, que l'idée que les âmes des justes peuvent souffrir après sa vie commença à prendre racine. Quant à saint Augustin lui-même, il est à cet égard dans l'incertitude la plus complète. On peut, dit-il, mettre la chose en question pour savoir si elle est vraie. Donc il commençait à se poser la question. D'abord, il avait déclaré certaines choses, et puis après, il dit, mais on peut se poser la question. Peu à peu, cependant, l'idée fit son chemin. Il était réservé au pape Grégoire le Grand, à la fin du 6e siècle, de poser le premier fondement de cette prison des âmes qui s'appelle le purgatoire. Il composa à ce sujet un livre rempli des contes les plus absurdes. Cependant, la doctrine du soulagement des morts par les prières et l'argent des vivants ne fut introduite dans le culte public qu'en 998 sous les papes Jean XVII ou Grégoire V. Et la fête des morts, approuvée par le Saint-Siège en 1001, fut dès lors régulièrement célébrée dans l'Église. En 1563 seulement, dans sa dernière session, le Concile de Trente rendit enfin un décret faisant du purgatoire un article de foi imposé à tous les fidèles catholiques. Donc ce n'est pas, je ne veux pas faire là une croisade contre le purgatoire, simplement c'est une idée qui a aussi la vie dure, et nous pouvons voir ici un petit historique comment ces idées ont émergé. Mais dans la parole de Dieu, nous n'avons aucune référence. Et là, il donne quelques idées pour dire d'où pourrait être venue cette idée du purgatoire. Alors il dit, comme on le voit, c'est bien là, dans toute la force du terme, un dogme moderne, dérivé en ligne directe du paganisme. Ce n'est qu'après coup qu'on a cherché, mais en vain, à lui trouver un appui dans l'Évangile. Car les passages qu'on invoque en sa faveur n'ont aucune portée quelconque. Qu'ose-t-on invoquer en effet pour prouver l'existence du purgatoire? Un passage où il est question de se réconcilier avec son adversaire pendant qu'on chemine avec lui, de peur qu'on ne soit jeté en prison. Donc ça, c'est par exemple Matthieu 5. Je vais aller jusqu'au bout, juste pour vous montrer un peu, parce que ce raisonnement qui est valable pour cette question, peut aussi être valable pour d'autres questions. C'est très important qu'on voit comment, en voulant chercher dans la parole de Dieu un appui biblique, on peut faire une mauvaise interprétation. Jésus dit ici, Matthieu 5, 25, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » Ce passage s'applique non pas à quelque chose d'éternel ou quelque chose de spirituel, mais cite un conseil de la part de Jésus pour une chose qui se passe concrètement dans la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est important de ne pas tout spiritualiser. Ici, de quoi il est question? Il faut se mettre à la place, non pas de notre système carcéral occidental, mais de se mettre à la place de ce qui se passait en l'an zéro et quelques. Vous étiez jeté en prison pour un motif X et vous ne saviez pas quand vous alliez en sortir. Et peut-être si vous aviez des amis influents ou riches, eh bien, vous pouviez en sortir plus vite. Mais si jamais vous n'aviez pas cela, eh bien, vous pouviez y rester longtemps. Dans les Actes des Apôtres, on voit que, à un moment donné, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune raison pour que l'apôtre Paul soit en prison. Ils avaient décidé, ils avaient dit, on ne trouve rien en lui. C'est juste une question de religion et de discussion de mots. Mais il nous est dit que je crois que c'était le procureur, il le gardait en prison parce qu'il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Et c'est comme ça que ça se passait. C'était pas des systèmes avec un jugement, puis un appel et des avocats et on défend vos droits. Et s'il y a un vice de procédure, vous ressortez tout de suite et vous avez encore des dommages et intérêts et tout le reste. Vous voyez, nous avons besoin de voir que quand nous lisons ici prison, c'est le cachot. Vous savez quand vous entrez, vous ne savez pas quand vous sortez. Alors Jésus disait, faites attention, ne vous laissez pas prendre à ces choses-là. Et ailleurs encore, il a dit, ne résistez pas aux méchants. Et nous savons que dans la Bible, il dit qu'il y en a un qui est le méchant, c'est le diable. Et à celui-là, nous devons lui résister. Vous voyez, si je spiritualise le verset qui dit, ne résistez pas aux méchants, on est confus. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que je me laisse. Je baisse la tête et je me fais frapper dessus constamment. Et il a dit, ne résistez pas aux méchants dans le sens que si quelqu'un te force à faire un mille avec toi, fais-en deux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le soldat romain pouvait exiger de quiconque de lui porter ses bagages. C'était leur droit en tant que troupe d'occupation. Vous vous direz, toi, viens là, voilà mes bagages. Tu les portes pendant un kilomètre. Bon, je dis maintenant un kilomètre, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, si toi tu dis, ah non, je ne vais pas, alors ton cas commence à devenir grave. Parce que tu résistes à l'autorité et alors tu risques d'avoir des ennuis. Alors Jésus disait, ne résiste pas à ça, ne t'attire pas d'ennuis. S'il te demande d'en faire un avec lui, va même jusqu'à en faire deux s'il le faut. Et après tu seras tranquille et tu n'auras pas eu d'ennuis. C'est ça que ça voulait dire. Vous voyez, des conseils, le bon sens et... Et alors, il est dangereux de les transposer pour vouloir leur faire dire quelque chose. Il ne s'agit pas ici d'une prison spirituelle pour les âmes. Et donc, il n'y a pas d'autre passage non plus qui nous montre que cet endroit existe. Et on sait comment, graduellement, et cette doctrine avait pris de l'importance, de l'impact, et comment elle a été mal utilisée contre les gens. Et comment elle les a tenus pour beaucoup dans des prisons spirituelles, parce qu'ils tremblaient pour leurs bien-aimés et souhaitaient les voir soulagés de ces souffrances. Et ils étaient prêts alors à payer et à prier. Eh bien, il nous est dit dans la parole de Dieu que chacun rendra compte pour lui-même. Nous pouvons nous prier les uns pour les autres, nous pouvons nous encourager à suivre Dieu, mais il y a un moment où la décision nous appartient, à chacun d'entre nous, où nous allons passer l'éternité. Et après, il nous est dit, il nous est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, après les autres ne peuvent plus intervenir pour vous racheter. Et même s'ils pouvaient le faire avec l'argent, ça voudrait dire que le salut est à nouveau basé sur quelque chose que je peux payer. Et nous avons vu en début, nous avons vu que notre salut repose sur le rachat de nos âmes par le sang de Jésus et rien d'autre. Donc, il faut aussi savoir répondre à cette question. Donc j'en reviens, j'avais fait la transition. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Et quelqu'un d'autre a parlé du paradis, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, il nous raconte, il est très discret, très modeste. Il parle d'un homme qui a été dans le ciel, on comprend que c'était lui. Mais il en parle comme d'une personne à troisième personne. Et il dit qu'il ne voulait pas se glorifier. Il dit que ce n'est pas bon de se glorifier. Mais la situation était tellement difficile pour lui. Son ministère était constamment remis en question. Il était attaqué, critiqué. Il a dit, mais il y en a qui se prennent pour des super spirituels. Alors je vais vous raconter quelque chose. Il dit, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Et puis il se reprend tout de suite, il en dit, c'est pas bon de se glorifier, mais je vais quand même vous dire que j'ai été au ciel. Alors c'est ce qu'il dit, littéralement. Il dit, j'en viendrai à des révélations, des visions du Seigneur. Je connais un homme en Christ, moi-même. C'est moi qui précise, hein, c'est pas moi. Il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Il n'est pas sûr si c'est dans son corps ou sans son corps. Et nous voyons que certaines choses spirituelles peuvent devenir tellement fortes qu'on ne sait plus si c'est dans le corps ou si c'est simplement en esprit. C'est arrivé aussi à Pierre. Rappelez-vous, il était en prison. L'ange vient le délivrer. Et pendant toute cette succession, il nous a dit qu'il n'était pas encore sûr si c'était réel ou s'il était en train d'avoir une vision. Après, il s'en est rendu compte qu'il était vraiment hors de prison. Mais sur le moment, il n'était pas encore sûr est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est réel. Donc il y a un moment où les choses de l'esprit deviennent tellement fortes que le corps, eh bien on en est moins conscient et alors on a du mal un peu à dire si c'est vraiment qu'on l'a expérimenté ou juste vu. Ça se passe aussi dans le négatif comme ça. Il y a des livres diffusés dans le monde chrétien, de gens qui nous racontent toutes leurs histoires qu'ils ont vécues en tant que sorciers, sorcières et que sais-je encore. Et les gens sont friands de ça. Ils aiment raconter et lire ces histoires. Et certaines de ces histoires sont des mensonges. J'ai par exemple moi-même entendu du pasteur Francis Badinga en Afrique, et il nous racontait que là-bas, il y avait un homme qui avait donné son témoignage, il avait vécu des choses fortes dans le domaine des ténèbres, de l'occultisme, il avait donné son témoignage, et parce que ce témoignage avait tellement plu, la deuxième fois qu'il donnait son témoignage, c'était déjà plus le même. Il avait déjà un peu brodé et rajouté. Et plus il voyait qu'il y avait de l'engouement et de l'intérêt pour son témoignage, plus le témoignage évoluait. Et finalement, il y a un témoignage qui a donné un livre où il raconte toutes sortes de choses délivrées de la puissance des ténèbres. Et il a dit, et rien n'est vrai de tout cela, puisqu'ils connaissent le bonhomme, ils disent c'est que des mensonges. Et en France, c'est imprimé, c'est publié, c'est diffusé, et les chrétiens se nourrissent de ça, et ils apprennent des choses formidables sur le royaume des démons. Mais c'est tout des mensonges. On ne peut pas être renseigné par le diable. C'est Dieu qui est notre source. La Bible ne parle pas tellement du diable et des démons. Elle en parle juste ce qu'il faut. Mais pas tellement dans le sens proportion. Voyez ? C'est ça que je veux dire. Elle garde les choses. Il n'y a pas Dieu et le diable en concurrence. Il n'est rien du tout. Il suffit d'un ange pour le lier. On va peut-être en parler. Et il va se retrouver dans l'abîme. C'était un autre endroit où on aurait peut-être pu se trouver. Eh bien, l'abîme est réservé pour le diable où il sera enchaîné. Mais pour le moment, nous ne sommes pas en train de nous occuper de l'abîme. Nous sommes en train de suivre Paul. Vous me suivez ? On est en train de suivre Paul jusqu'au troisième ciel. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Donc il utilise le mot paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, Paul a entendu des paroles merveilleuses et il n'a pas le droit de les exprimer. Et actuellement, on a toutes sortes de gens qui ont été au ciel et puis ils nous viennent avec plein de choses qu'ils nous racontent en détail sur comment c'était et tous les messages qu'ils ont. Alors, je suis aussi des fois un peu perplexe de voir que la politique du ciel est tellement changée. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc ça, c'est encore une autre affaire. On ne va pas rentrer dans le détail. Simplement, je voulais souligner qu'il a dit, je fus ravi jusqu'au troisième ciel. Et il dit que le troisième ciel, ce n'est rien d'autre que le paradis. Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et Paul dit que quand il était dans le troisième ciel, c'était le paradis. C'est la même chose. Alors, quel est le premier, deuxième et troisième? Eh bien, le premier, c'est l'atmosphère qui nous entoure. C'est tout ce qui est autour de la planète Terre, l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est le cosmos, les étoiles, soleil et tout ça, les galaxies. Et le troisième ciel, eh bien, c'est là où il y a Dieu, là où il est, là où nous voulons aller. Et ce troisième ciel, tel qu'il est décrit ici, il nous parle aussi souvent dans les évangiles, il nous est dit « le royaume des cieux est semblable à ». Et qui ne veut pas dire un endroit géographique, mais veut plutôt dire quelque chose qui est ailleurs et d'une autre nature. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que entre ciel, cieux et le ciel et aller au ciel, ça peut être des fois un peu confus, mais pour nous ça peut être très simple si on a bien en tête cette hiérarchie. Le ciel, c'est d'abord l'atmosphère. Si on regarde, on dit le ciel est bleu, qu'est-ce qui est bleu? Hein? Ben c'est les combinaisons de la lumière du soleil avec l'atmosphère, les couches de nuages et de tout le reste. Donc, le ciel, quand le ciel est bleu, c'est l'atmosphère de la Terre. Mais le cosmos, lui, n'est pas bleu. Il est de quelle couleur? c'est ténèbres avec des points lumineux un peu partout, hein. Mais sinon, là où il n'y a pas de lumière, c'est la nuit. Hein, c'est une grande révélation, mais c'est comme ça. Et donc, le ciel, là où il y a la présence de Dieu, c'est quelque chose de différent. Et quand je dis la présence de Dieu, il faudrait s'expliquer, bien sûr, Dieu est aussi ici, et il est aussi en nous, et il est avec nous. Mais il y a un endroit aussi qui existe, et là où Jésus est allé, quand il a dit qu'il emmènerait le brigand de la croix. Alors, c'est pour ça que quand dans Acte 1, versets 9 et 11, on dit qu'il regardait à Jésus, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc cette nuée qui est venue, ce n'était pas un nuage. C'est autre chose, comprenez. C'était quelque chose de nature spirituelle, la nuée. Parce qu'il y a aussi ces idées que les gens vont habiter sur des nuages. C'était aussi très populaire. Hein? Quand on meurt, on s'élève, les ailes poussent, devient comme des anges, et puis on va s'asseoir sur un nuage. Non mais je veux dire, toutes ces choses impriment des fausses notions encore et encore et encore, et au point que quand vous venez vous parler de la parole de Dieu, les gens vous rangent à côté de toutes les autres contes et fables qu'ils ont entendus. Et ce qui se développe énormément actuellement, et qu'il faut faire aussi attention à certains messages qui sont véhiculés, c'est au niveau de la science-fiction et des extraterrestres. Parce que pour beaucoup de gens, si vous leur parlez de Dieu, ils ne vont pas dire « j'y crois pas ». Ils vont dire « oui, j'y crois, c'est un extraterrestre ». Dans un sens, ils ont raison, il n'est pas de cette terre. Mais comme eux ont été conditionnés, pensant donc un être peut-être charnel, limité, qui aura simplement vécu ailleurs, sur une autre planète, des choses comme ça. Et donc là, eh bien, ça peut nous faire trouver un peu le tournis, on a un petit peu le vertige devant tout ça, parce qu'on parle de choses éternelles, on parle d'éternité. Alors la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien, elle est résolue. Non, nous ne sommes pas seuls, il y a Dieu, il y a les anges, il y a beaucoup d'autres choses. Mais nous avons besoin de voir simplement, il y a un endroit préparé pour nous. Et ce n'est pas mettre la tête dans le sable, vouloir se cacher des réalités. Nous devons pouvoir répondre aux gens. C'est-à-dire dire, moi je ne me réfugie pas dans la religion parce que la vérité me fait peur. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que nous soyons capables de dire. Non, je ne veux pas croire à des contes, à des fables, parce que tout simplement j'ai peur d'être seul dans l'univers. Et que ça me rassure de me dire qu'il y a quelque part le bon Dieu. Nous devons simplement dire, mais nous avons une révélation d'un être éternel que nous appelons Dieu et qui s'est manifesté sous une forme physique dans le nom de Jésus et qui nous a parlé de cet endroit où nous voulions aller et qui nous a dit qu'il en était le chemin et que nous avons choisi de croire à tout cela. Nous avons choisi de faire confiance à ce Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous avez à proposer? Parce que Jésus a souvent aussi répondu à des questions par des questions en disant, ok, moi, prenons 5 minutes, moi je te dis ce que je crois, ensuite tu me dis ce que tu crois. Parce que nous aurons au moins l'occasion de semer une parole. Et vous savez, des fois, nous avons l'impression qu'il nous faut convaincre. Nous n'avons pas besoin de convaincre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons besoin de semer. Si nous pouvons semer une parole, cette parole peut trouver le chemin du cœur de la personne. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, c'est la personne qui va le recevoir et Dieu va faire son œuvre pour qu'elle accepte. Mais en attendant, pouvons lui dire que ben, nous sommes heureux de savoir où nous allons. Parce que autant j'ai dit au début, après la mort vient le jugement, ça c'est vrai. C'est vrai, mais pour nous, en tant que croyants, le jugement est déjà passé. Nous ne serons plus jugés de la même façon que les autres. Alors voyons cela dans Apocalypse, chapitre 20, par là. Il y a plusieurs jugements. Il y a le jugement dernier, très populaire aussi, hein. Armageddon, jugement dernier, titre des derniers films. Il n'a rien à voir, mais ça fait vendre. Rien à voir ni avec la Bible, ni même avec un jugement dernier. Le film Armageddon, je ne l'ai pas vu, mais je sais simplement en bribe qu'il y a un météorite qui menace la planète Terre, et puis un astronaute qui réussit à le faire dévier ou exploser, je ne sais même pas. En tout cas, il sauve la planète, donc tant mieux. Mais ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. Mais ici, nous voyons ce qu'il est né du jugement dernier. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Voyez, c'est au passé, je vis un grand trône blanc, alors que c'est un événement qui va se produire bientôt, mais dans le futur. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons prendre l'habitude de commencer à voir que les choses spirituelles ne sont pas toujours chronologiques comme chez nous ici sur Terre. Il a vu ça parce que Dieu lui a fait voir à l'avance des choses qui concernent notre avenir. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors si on n'a plus la terre sous nos pieds, où sera-t-on? Toutes ces questions n'ont pas leur importance cruciale. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Donc il y a des livres et il y a un livre. Et si vous êtes dans un des livres, alors les autres livres ne vous concernent pas. Celui qui est le passe pas en jugement, il est déjà jugé en Christ. C'est ça qui est formidable. Mais pour les autres, si le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort, le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voyez, là, c'est clair. Et donc, ce livre de vie, il détermine votre destinée éternelle. Si votre nom est inscrit dedans, alors les autres livres ne vous concernent pas. Et dans les autres livres sont recensées toutes les œuvres que vous avez faites. Vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les gens en général, sauf ceux qui sont dans le livre de vie. Puisque en Jésus, il nous est dit que nous avons une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées. Passées, ça veut dire effacées, enlevées par le sang, il ne reste plus rien du tout, et vous avez une vie nouvelle. Ça, c'est le jugement dernier. Pour les chrétiens, néanmoins, il reste quelque chose, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ est destiné à récompenser ceux qui auront vécu pour lui. Alors, on a vu aussi ce qu'était cet étang de feu et de soufre, c'est un endroit, la destinée éternelle de ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Vous voyez donc, nous avons au travers de la Bible plusieurs choses, et peut-être ça c'est un petit peu confus. Vous avez remarqué que je n'ai même pas parlé de l'enfer, parce que je ne le trouve pas. Pourtant, il est très célèbre, le terme l'enfer. L'enfer, inferno, ça veut dire les lieux inférieurs. Dans un certain sens, le séjour des morts, il fait référence, d'ailleurs certaines versions avaient même les enfers, où quand Jésus fait cette déclaration, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, le séjour des morts, des fois on disait, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais maintenant j'aimerais encore détruire cette fable qui voudrait que l'enfer soit le royaume du diable. Donc c'est un lieu, bon, il y a des flammes, tout ça, hein, s'il fait chaud. Dans le Moyen-Âge, il y avait tous les dessins qu'ils faisaient avec des grandes marmites et des gens qui étaient dedans, qui avaient chaud, qui souffraient, qu'on les piquait avec des fourches. Et le diable s'amuse et il a ses démons qui le servent. Et tout ça ne sont que des contes et des légendes. Rien de tout cela n'est vrai. Rien du tout. Ce qui existe, c'est que il y a une prison spirituelle qui existe et qui est le centre de la terre. Et c'est un endroit où certains anges déchus, eh bien, ils ont été mis dans cet endroit. Et il nous est dit que certains des anges qui avaient abandonné leur propre gloire ont été enchaînés éternellement. Certains y ont déjà été mis et ils sont là. D'autres anges déchus ont encore action sur terre, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que avant de connaître l'étang de feu et de soufre qui sera la destinée éternelle et avant qu'il y ait le jugement, eh bien, il y avait un endroit qu'on appelle le séjour des morts dans la Bible où les gens sont mis en attendant le jugement. En attendant. Et c'est un endroit de ténèbres. On appelle ça aussi les ténèbres du dehors. Où Jésus dit, dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que les gens sont conscients de cet endroit. Ce n'est pas leur destinée éternelle, leur punition qu'ils soient loin de Dieu, parce qu'ils auront choisi délibérément d'être loin de Dieu. Mais c'est un endroit où ils sont conscients, j'ai manqué le ciel. Il n'y a plus de retour. Je ne suis pas encore à ma destination finale, mais j'attends. Et ça, c'est un lieu d'angoisse. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et en attendant cela, donc ils sont dans cet endroit, alors maintenant à vous de déterminer. Quand vous dites l'enfer, à quoi pensez-vous? Alors, est-ce que vous pensez au séjour des morts? Est-ce que vous pensez aux ténèbres extérieures? Est-ce que vous pensez à l'étang de feu et de soufre? En tout cas, ce n'est pas le royaume du diable où lui s'amuse. Parce que l'étang de feu et de soufre est l'endroit qui nous est dit dans la Bible, a été préparé pour le diable et c'est lui le premier qui va y être mis. Il nous est dit au chapitre 20, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Alors, où est l'abîme? L'abîme est aussi un lieu inférieur où le diable sera enchaîné pendant 1000 ans, dit la Bible. Ensuite, de ce lieu, il sera à nouveau délivré. Mais, lorsque ce sera fini avec lui, il nous est dit que, ensuite, le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ces gens-là, enfin toute cette bande, c'est les premiers qui seront là-bas. Et c'est destiné pour eux, d'abord, et ensuite pour tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le lieu où eux seront les chefs et s'amuseront. Et donc, nous n'avons pas besoin de les craindre. Il nous est dit, il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, parce que le diable a des possibilités, des fois, de tuer. Hein, et il ne se gêne pas quand il peut, cherche qui dévorer. Mais nous devons craindre celui qui a le pouvoir de décider de notre destinée éternelle. Et la crainte de Dieu n'est pas la peur de lui. C'est autre chose. Mais néanmoins, c'est eux qui seront mis là. Et il nous est dit aussi que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, il était dit, quand les 1000 ans seront accomplis, verset 7, Satan sera relâché de sa prison. C'est une prison. Et il sortira, et quelque part, ah voilà, au verset 9, je cherchais ça, ils montèrent à la surface de la terre. Donc cet abîme, c'est un abîme, on sait ce que c'est, ça peut être une crevasse, une fosse, eh bien c'est pas un lieu spirituel quelque part dans le cosmos, c'est quelque chose qui est là. Il se passe beaucoup de choses sur notre planète Terre, hein, mine de rien, même des choses qu'on voit pas, mais j'ai entendu qu'un jour, ils avaient fait des forages, et ils avaient fait des sondages et ils avaient entendu des cris dans les profondeurs de la Terre. Un appareil d'enregistrement. Ça fait ce que vous voulez, hein. C'est une petite information en passant. Mais ils avaient entendu qu'il y avait des cris. Là où normalement rien ne peut subsister, aucune vie humaine en tout cas, ni vie animale, mais il y avait là déjà des êtres spirituels qui étaient déjà dans cette prison. Parce qu'il faut les mettre quelque part. Et comme les êtres esprits que nous sommes et que sont aussi les anges et les démons sont tous éternels, une fois qu'un esprit est créé par Dieu, il ne peut pas être détruit, contrairement à la doctrine des témoins de Jéhovah qui pensent qu'il y a une suppression et puis ça s'arrête. Un rien pour ceux qui sont pas avec Dieu. Donc il y a ceux qui appartiennent à Dieu, à leur façon de voir les choses, et les autres sont détruits. Eh bien non, ici il nous est dit qu'ils seront tourmentés. On peut dire c'est cruel ça de la part de Dieu de tourmenter ces gens pour l'éternité. Ce n'est pas Dieu qui les tourmente. C'est eux-mêmes qui ont continué de vivre dans la séparation d'avec Dieu et dans leur propre péché. C'est ça qui les tourmente. Les regrets éternels, comme on écrit des fois sur une tombe, regrets éternels, c'est là qu'ils sont, les regrets éternels. C'est tragique de dire que quelqu'un écrit regrets éternels sur une tombe parce que ça pourrait être vrai. Oui, et ça serait tragique. Donc on a fait un petit tour d'horizon pour ce soir avec une géographie biblique des différents endroits et je crois que c'est important donc que nous ne soyons pas confus mais que nous puissions dire clairement Jean, voilà ce que nous croyons et c'est pas rien du tout, c'est la parole de Dieu et si vous y croyez si vous voulez, nous y croyons, cela nous rend heureux et nous avons le témoignage intérieur de voir que eh bien, tout cela est attesté par celui qui a dit « Je suis la vérité ». Je termine par Romains 10. Donc si jamais quelqu'un au milieu de nous ne savait pas encore où il va, chacun doit le savoir pour lui-même. Chacun peut avoir l'assurance où il va. Mais, concernant le voisin, est-ce que vous le savez ? Est-ce votre voisin ? Est-ce que vous le savez ? Nous pouvons le souhaiter pour lui. Mais la Bible nous dit dans Romains 10, voici, au verset 6, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Donc je ne dois pas regarder autour de moi et dire, demande lequel d'entre eux. Et il dit aussi, parce que c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. Voyez de nouveau le terme de la fosse. Parce que c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas en ton cœur. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se mettre à la place de Dieu. C'est lui le juge. C'est lui qui a fait descendre Christ et qui l'a fait remonter d'entre les morts. À cause de sa puissance. Et ce n'est pas à nous de nous mettre à sa place, à lui. Mais, elle ne nous laisse pas dans le flou. Elle nous dit, mais il y a quelque chose que vous pouvez savoir. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors je dis des fois, pouvons-nous savoir si quelqu'un est sauvé ? Si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire s'il parle de la part de Jésus, s'il dit « moi j'appartiens à Jésus, moi je crois en Jésus, je crois qu'il est mon Seigneur », alors c'est tout ce que je peux savoir. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. Mais lui peut le savoir, ce qu'il y a en lui, et Dieu le sait. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ainsi quelqu'un peut nous tromper, nous. Il peut faire longtemps semblant d'être chrétien, il peut faire des belles déclarations, des belles prières, mais si la partie de son cœur, s'il ne croit pas que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cela ne suffira pas. Il faut les deux, l'intérieur et ce qu'on entend et ce qu'on voit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence. Vous rappelez de ce que j'ai dit, le brigand de la croix, il n'a pas eu un traitement spécial. Aucune différence. En effet, le juif et le grec, ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à partir du moment où dans les épîtres on voit le nom du Seigneur, c'est toujours Jésus. C'est pas n'importe quel nom. C'est pas Jéhovah par exemple, certainement pas. C'est Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est pour le nom de Jésus que les disciples avaient été battus, qu'ils avaient été mis en prison. Nous vous défendons d'enseigner en ce nom, il leur avait dit. Vous voulez remplir tout Jérusalem de cet enseignement sur le nom de Jésus. Eh bien, le nom de Jésus, pour celui qui l'invoque, eh bien, il suffit pour le sauver. Le nom de Jésus, parce qu'il y a tout en lui. Il y a toute sa personne, toute sa personnalité. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous pouvons annoncer à quelqu'un, et ensuite, nous pouvons l'amener à confesser Jésus comme son Seigneur. Et ce n'est pas mauvais de le faire. C'est même très bien de le faire. Simplement, pour des fois, on se pose la question, hein, mais ça suffit, est-ce que ça tiendra, etc. La Bible dit, si le serviteur d'un autre se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Nous avons simplement à le conduire à Jésus. Ensuite, nous pouvons bien sûr prier pour lui, l'encourager, l'enseigner, témoigner, tout ça, mais le faire tenir debout, ça, nous ne pouvons pas. C'est entre lui et Dieu. Et c'est sûr que si nous avons fait pression sur quelqu'un, dit allez, hop, fais la prière pour recevoir Jésus dans son cœur, peut-être c'est pas ce soir-là qu'il aura fait l'expérience, mais vous savez, ça ne fait pas de mal tout de même, parce que il peut se rappeler quand même de ce qu'il a fait. Parce que quelqu'un qui n'a jamais rien entendu, il ne sait même pas comment prier. Il ne sait même pas comment prier. Moi, je me rappelle combien j'étais reconnaissant quand j'avais entendu certaines émissions chrétiennes à la radio, comment chaque émission était terminée par une prière. Parce qu'au début, quoi prier? Réciter le Notre Père. C'est pas mal non plus. Mais dans le Notre Père, il n'y a pas l'élément du salut. On n'invoque pas le nom de Jésus. Puisque ce n'était pas encore la période. C'était une période transitoire où Jésus enseignait au peuple juif quelque chose d'extraordinaire pour eux. Il leur disait, vous pouvez avoir une relation avec Dieu comme un enfant avec son père. C'était une révolution. Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom de Père. Et ensuite, eh bien, l'Esprit de Dieu a révélé à nous un autre nom, qui est le nom de Jésus. Donc, c'est bon de connaître Romains 10, parce que, eh bien, c'est celui-là qui résume notre façon de recevoir Jésus dans notre vie. Non pas confesser tous nos péchés, ça nous prendrait longtemps, surtout si on est déjà très âgé. Plus on est âgé, plus ça prend longtemps s'il faut confesser tous ses péchés avant d'être sauvé. Vous êtes d'accord? Et pourquoi devrions-nous creuser dans notre passé, puisque la Bible dit autre chose? Elle dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc de quel péché devrions-nous confesser? Eh bien moi je crois qu'il y a certains péchés. Ceux qui ne veulent pas partir facilement, eh bien, il est bon des fois de les confesser avec quelqu'un et de prier dessus pour en être délivré, avoir quelque part un compagnon ou un témoin. On peut se dire, eh bien, avec ça, c'est terminé. Et on dit, au nom de Jésus, eh bien, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec ces choses du passé. Et donc, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas la condition au salut. Nous voyons que tout ce que les hommes peuvent mettre en œuvre, c'est la conséquence du salut, mais pas la condition. La condition, c'est croire. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.